Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication de ce matin. Alors nous allons commencer par Genèse 15, avec les 18 premiers versets. Genèse 15, des versets 1 à 18. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles. » Compte les étoiles si tu peux les compter, pardon. Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants, dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. » Toujours dans Genèse, au chapitre 17, les 4 premiers versets. Genèse 17, des versets 1 à 4. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. » Toujours au chapitre 17, le verset 7. « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Ensuite, nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4. Épître aux Romains, au chapitre 4, le verset 13. Romains 4, verset 13. « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. » Ensuite, des versets 18 à 25, toujours dans l'Épître 4. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, pardon. Des versets 18 à 25. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous. À qui cela sera compté ? Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Jusqu'ici, les textes qui viendront supporter la prédication de ce matin. Je vais laisser la place à notre pasteur Timothée Wenger qui va nous apporter la parole ce matin.
On raconte qu'un jour, Napoléon, alors qu'il était devant ses troupes, à son cheval qui s'emballa. Et promptement, comme l'éclair, un jeune paysan sort de son rang, saisit le cheval, le calme, avant de rendre les rênes à son maître. « Merci, capitaine !» déclara l'empereur. « Capitaine de quel régiment, mon général ?»« De ma garde personnelle, voyons. » Le soldat se le tint pour dit. Renonçant à rentrer dans le rang, il se rend immédiatement au corps de garde pour y occuper son nouveau poste. Un capitaine l'apostrophe et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bien, je viens prendre le commandement de la garde personnelle de l'empereur. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Mais j'en ai reçu l'ordre. »« Qui te l'a donné ?»« Lui !» répondit le soldat en montrant l'empereur. « Pardon, je ne le savais pas !» s'excusa l'officier. Le jeune soldat avait pris Napoléon au mot. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit agisse en nous et que chacun ici présent, nous prenions Dieu au mot. Lors de la dernière prédication, dans cette petite série sur Abraham, nous avons parlé d'Abraham et d'une boussole qui était un petit peu déphasée. Mais nous avons aussi vu, dès le début, dans la première prédication, que Dieu donne à cet homme qui vivait dans un pays rempli d'idolâtrie une promesse. Alors prenez toujours Genèse devant vous, c'est bien de l'avoir ouvert. Dans le chapitre 12, voici ce que Dieu avait dit à Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit. Et lorsqu'il arriva en Canaan, nous lisons en Genèse 12, verset 7, « L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà les promesses sur lesquelles Abraham appuie sa foi. Et nous avons vu lors de la dernière prédication qu'Abraham met sa foi en pratique particulièrement avec Lot et dans la rencontre avec Melchisédek. Il y a 2 semaines, c'est vrai, nous avons constaté la boussole d'Abraham qui n'a pas toujours été dirigée vers l'Éternel. Sa foi a été désorientée, mais l'Éternel ne l'a pas laissé tomber. Il ne l'a pas laissé se perdre. Et ce matin, nous avons entendu que l'Éternel dit dans Genèse 15, 1, qu'on a entendu tout à l'heure, « Sois sans crainte, sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. » Et la récompense, et ta récompense sera très grande. Alors, comme promis la dernière fois, nous allons parler de la foi renouvelée d'Abraham aujourd'hui. Ou plus précisément, ce que Dieu a utilisé pour renouveler sa foi. Et nous verrons 3 choses. La première, c'est que Dieu renouvelle ses promesses. Dieu renouvelle ses promesses. Ça sera la première partie. Ensuite, nous parlerons que Dieu fait alliance avec Abraham. Il y a une alliance qui est faite avec lui. Et troisièmement, Dieu change le nom et concrétise une descendance. Voilà les 3 aspects que l'on va voir ce matin. Donc premièrement, Dieu renouvelle ses promesses. Je viens de vous relire Genèse 12, qui était la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham dès le départ. Et après sa désorientation en Égypte, cette humiliation qu'il a vécue quelque part, il revient, on voit un hôtel qui est construit à Bethel, et ensuite, il se sépare de Lot. Un temps difficile. Celui qui semblait être quand même celui qui allait prendre la suite après lui, l'héritier logique. Et Abraham, suite à ces épreuves, ne devait pas être dans une grande joie et rempli d'espérance. Il y a des moments dans la vie où c'est comme ça, c'est vrai, pas rempli d'une grande joie et d'une espérance. Et c'est là que Dieu lui parle. C'est là que Dieu lui parle et qu'il lui renouvelle ses promesses. C'est là que Dieu lui parle et lui renouvelle ses promesses alors qu'il était dans les épreuves. Quel bienfait pour nous qui passons dans des épreuves de pouvoir entendre la voix de Dieu qui nous rappelle ses promesses. Et Dieu l'utilise, par exemple, la lecture biblique personnelle pour nous parler, nous rappeler les promesses. Ou peut-être les paroles d'un frère ou d'une sœur qui nous raconte ce qu'elle a découvert dans la parole, une promesse qui lui a fait du bien ou qui lui envoie un petit message. Ou par la prédication, ou par un chant, ou par quantité d'autres moyens que Dieu utilise pour nous faire entendre sa parole éclairée par son esprit. Vous savez, Jésus a dit à de nombreuses reprises ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ou soyez sans crainte. » Et ça a même commencé dès sa naissance par les anges qui l'ont dit au berger, « Soyez sans crainte. » Et une promesse était avec ce « soyez sans crainte ». Et on voit que très souvent, il y a une promesse avec le « soyez sans crainte ». Avec les anges, là, il était dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Donc Dieu, en rappelant les promesses à Abraham, lui dit « Ne sois pas dans la crainte. » Et j'aimerais prendre quelques instants pour mieux saisir les promesses que Dieu a faites et rappelle ici à Abraham. Donc il y a 3 éléments, le pays promis, la descendance promise et la source de promesses. Alors le pays, dès son arrivée dans le pays de Canaan, Abraham entend l'Éternel et il est dit dans Genèse 12, verset 7, on l'a lu tout à l'heure. Donc il est parti, il est entré dans le pays Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà que l'Éternel renouvelle la foi de celui qu'il aime. Il répète ce qu'il avait dit précédemment. Et plus encore, non seulement il dit ça, mais il lui demande de parcourir le pays. Chapitre 13, versets 14 et 15, on le voit ici. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, « Lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Et Abraham va parcourir le pays. Il parcourt le pays et il prend une excellente habitude. Il construit des hôtels à l'Éternel. Il va parcourir le pays. Et il prend d'excellentes habitudes, il bâtit des hôtels à l'Éternel. On pourrait dire, il marque le territoire. il marque le territoire afin que chacun comprenne qui est Dieu. C'est un appel au peuple de la région à revenir à l'Éternel. Donc il marque le territoire afin que chacun comprenne qui est Dieu, et c'est un appel au peuple de la région à revenir à l'Éternel. Vous savez, tous les peuples tirent leur origine de Noé qui connaissait l'Éternel. Voilà pourquoi je peux dire revenir à l'Éternel. Pourquoi dire aux Cananéens revenir à l'Éternel ? C'est parce qu'à l'origine, il n'y avait pas plusieurs dieux, et petit à petit, l'homme est venu à croire qu'il y avait un seul Dieu. Ça, c'est l'hypothèse évolutive qui fait penser à ce genre de choses. Non, au départ, le seul vrai Dieu était adoré par Adam et Ève. Ça, c'est l'origine. Et ensuite, les hommes se sont détournés de Dieu. Et le jugement est venu, le déluge est venu, et Noé adorait le seul vrai Dieu. Ensuite, les hommes se sont détournés à nouveau du seul vrai Dieu et ont commencé à imaginer d'autres dieux. Et nous voyons le résultat actuellement, une foule de dieux. Abraham bâtissait des autels à l'Éternel. C'est comme des petites églises fidèles qui avaient un clocher terminé par une flèche qui montait vers le ciel et qui dirigeait vers Dieu. Sous la nouvelle alliance, en ce qui concerne maintenant le pays que l'Éternel nous donne, cela n'est pas un territoire sur terre, mais, ou bien sur la terre renouvelée dans l'avenir, mais un royaume spirituel. Un royaume dans lequel nous pouvons déjà vivre au travers de la Bible qui nous la révèle. Et vous savez quoi ? Ce royaume, c'est Jésus lui-même. Il l'a dit quand il est venu. Le royaume de Dieu est venu dans ce monde, c'est lui-même. Et nous sommes appelés, on pourrait dire quelque part, à le parcourir de long en large pour mieux le connaître. Construire des autels de prière à chaque endroit où nous découvrons quelque chose. Dieu nous dit donc également, « Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Dieu promet à Abraham un pays et il promet aussi une descendance. Dans Genèse 12, au verset 2, il était dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction. » Dans Genèse 13, puis dans Genèse 15, l'Éternel renouvelle la foi d'Abraham en ajoutant des illustrations qui aideront Abraham à se souvenir de la promesse de Dieu. Lisons Genèse 13, verset 16. Il lui dit là « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus les compter et que l'on ne peut compter la poussière de la terre. » Un grain de poussière de la terre était une image courante dans le Proche-Orient ancien qui évoquait en fait une descendance nombreuse. Et Abraham a dû marcher quand même un certain nombre de kilomètres. Et puis quand on marche et que c'est sec, qu'est-ce que ça peut faire ? De la poussière. Et chaque fois qu'il pouvait voir cette poussière, il pouvait se rappeler de la promesse de Dieu. Et comme si ce rappel n'était pas assez permanent, quelques temps plus tard, l'Éternel fait sortir Abraham de sa tente la nuit et lui fait lever les yeux. Et il voit d'innombrables étoiles. Et voici ce que Dieu dit à son élu dans Genèse 15, verset 5. Il le mena dehors et dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il ajouta « Telle sera ta descendance. » Ainsi, chaque fois qu'Abraham va dehors et regarde les étoiles, il se rappellera la promesse de Dieu. C'est encore valable pour nous, en fait, lorsque nous voyons les étoiles. Rappelons-nous que Dieu avait donné une promesse à Abraham qu'il a accomplie. Chaque fois qu'on voit les étoiles. Depuis 4000 ans, puisque Abraham c'est 2000 ans avant nous, donc 2000 ans avant 2000, ça fait 4000. Depuis 4000 ans, il est difficile de compter le nombre de descendants physiques. De plus, comme Paul nous l'explique, ceux qui croient en Dieu sont aussi des descendants d'Abraham, qui est le Père dans la foi. Ça c'est Galates 3, 29 qui nous dit « Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. » Or certains disent que la poussière représente la descendance physique d'Abraham et les étoiles la descendance spirituelle. Peut-être. Mais je ne suis pas certain que nous puissions faire cette différence, parce que toute la Bible conduit à Christ. Et ceux qui sont à lui, que ce soit des descendants physiques d'Abraham ou non, hébreux ou non, ce sont les descendants spirituels qui peupleront le royaume de Dieu. Ainsi, lorsque vous regarderez les étoiles la prochaine fois, essayez de les compter. C'est intéressant. Il y a combien d'étoiles dans le ciel quand vous regardez hein? Ça dépend si on voit la Voie lactée ou pas, etc. Hein, donc, j'avais lu quelque part, je crois que c'est à peu près 4000 qu'on peut voir à l'œil nu comme ça. Hein, c'est déjà pas mal. Et puis, dès qu'on utilise même des jumelles, seulement des jumelles, pas besoin d'avoir un grand télescope, bah, tout à coup, il y en a déjà beaucoup plus encore. Et chaque fois qu'on voit les étoiles, on peut se souvenir de la promesse de Dieu envers Abraham qui s'est accomplie. Et si vous êtes en Christ, vous pouvez penser que vous êtes quelque part comme une de ces étoiles, puisque Dieu les connaît toutes et les nomme toutes. À chacune, il donne un nom. Hein, ça, c'est le psaume 147, verset 4, qu'il le dit. Comme chacun de nous, il nous connaît et il prend soin de nous. Vous savez, nous avons besoin, comme Abraham, de moyens qui nous rappellent les promesses de Dieu sur lesquelles notre foi s'appuie. On a besoin de moyens qui nous rappellent les promesses. On oublie et on revoit ces étoiles, on dit « Ah oui, c'est vrai, il prend soin de nous. » Si nous pouvons faire partie de ces étoiles de la descendance d'Abraham, c'est à cause de la descendance, celle par qui nous entrons dans le royaume de Dieu. Paul dit dans Galates 3:16 « Or, la promesse a été faite à Abraham, à sa descendance. » Il n'est pas dit « aux descendances » au pluriel, hein, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Donc ça, c'est Paul qui le dit, hein, Galates 3:16. C'est Christ, et c'est en Christ, par Christ, que nous faisons partie de cette descendance. Et si la promesse reçue par Abraham est certaine, c'est parce que la source de la promesse est fiable. Celui qui les fait peut les tenir. Des fois, nous, on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir parce qu'on n'a pas la toute-puissance. Lui, toutes les promesses qu'il fait, il peut les tenir. Donc l'Éternel renouvelle la foi d'Abraham en lui disant, dans Genèse 15, au verset 1, cette parole que j'ai souligné dans ma Bible, qui me marque, qui nous dit « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Vous savez, Abraham, qui n'avait pas d'enfant, pouvait sérieusement avoir du souci quant à la réalisation des promesses de Dieu. Mais Dieu souligne ici sa protection et la récompense qu'il a en réserve pour Abraham. Dieu est notre bouclier. Et même pas un descendant physique. Même que ça fait partie de la promesse, on verra, ça viendra par la suite. Mais ici, Dieu souligne la protection et c'est lui-même qui est le bouclier. La Bible en parle régulièrement. Je donne juste un ou deux exemples dans le psaume 3, verset 4. « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Ou dans le psaume 18, verset 3. « Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Ou encore le psaume 84, 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Bon, je m'arrête là, on a quelques exemples. L'Éternel est notre bouclier. Et Abraham, caché derrière ce bouclier, a sûrement vu sa crainte disparaître petit à petit, son agitation se transformer en un fleuve tranquille. Éphésiens 6 nous parle également du bouclier. C'est une arme que Dieu nous donne. Et ce bouclier représente quoi ? La foi. C'est pas étonnant en fait, hein ? C'est très lié aussi à ce que vit Abraham ici. Hein. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. En fait, les traits enflammés du malin voulaient atteindre Abraham. Les traits enflammés voulaient atteindre Abraham. Mais Dieu agit en bouclier. Il est l'auteur de la foi et la donne à celui qui la demande. Il est le bouclier, Dieu agit en bouclier, et il est l'auteur de la foi et la donne à celui qui la demande. As-tu un bouclier ? L'utilises-tu ? Comment utiliser ce bouclier ? Eh bien, en s'appuyant sur les promesses de Dieu et en croyant qu'il les réalisera. C'est ça, en fait, le bouclier de la foi. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Par exemple, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». Jolie parole. Tant qu'on ne le saisit pas par la foi, ça ne peut pas être un bouclier. Mais quand on l'a saisi par la foi, je crois qu'il prend soin de moi, donc je me décharge sur lui de tout ce qui pourrait me faire du souci pour demain et vivre chaque instant en cherchant à plaire à Dieu. Et il prendra soin de moi. Et nous pourrions, avec Marlise, vous témoigner du nombre de fois où nous allons vers lui, nous accrochons à cette promesse. Il va prendre soin de nous. Et il l'a fait jusqu'ici. L'Éternel a donné des promesses à Abraham. Il a souligné la provenance de ces promesses. Et que se passe-t-il ? Lisez avec moi un des passages les plus merveilleux concernant Abraham. C'est dans Genèse 15, verset 6. Il a dit « Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Un texte fabuleux. Vous savez, Dieu n'avait encore pas fait le signe de l'alliance, ou ce qu'on verra tout à l'heure avec ses animaux et tout ça. Il ne l'avait encore pas fait avec Abraham. Et pourtant, il le considère déjà comme juste. Pour être juste, il suffit de croire, car nous ne pouvons pas payer le poids de notre injustice. Un seul l'a fait. Un seul. C'est Christ. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que ça sera notre bouclier lorsque le jugement quelque part arrivera ? Abraham entrera dans l'alliance alors qu'il est justifié. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous entrons dans l'alliance de Christ ou manifestons notre entrée dans l'alliance quand nous sommes justifiés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Rappelons-nous donc le dernier aspect que nous venons de voir, que la source des promesses est fiable. Jésus a d'ailleurs dit, avant d'indiquer qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je parle souvent du sandwich de Matthieu 28, d'abord il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il est capable de tenir toutes les promesses. Ensuite, il nous envoie. Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les, etc. Et ensuite, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a le pouvoir de le faire. C'est lui la source de toute promesse. Et nous allons donc maintenant voir cette alliance de Dieu avec Abraham dans un deuxième point. Dieu fait alliance avec Abraham. Alors, la notion d'alliance dans la Bible est fondamentale. Dieu a fait une alliance avec Jésus-Christ de toute éternité, pour lui donner son peuple élu. Ça, c'est une alliance inaliénable. Au travers de l'histoire, il va conclure des alliances avec des hommes pour souligner certains aspects de celle qu'on appelle l'alliance de grâce, donc entre le Père et le Fils. Et au chapitre 15 et 17 de Genèse, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il en avait déjà conclu une avec Noé, dans Genèse 9. OK ? Mais ici, avec Abraham, on voit aussi que cette alliance avec Abraham est unilatérale. Ça, c'est un mot que les enfants doivent écrire. Unilatérale. Ça veut dire que c'est Dieu qui prend la responsabilité de cette alliance. C'est Dieu qui prend la responsabilité de cette alliance. Et puis, en fait, Abraham ne peut pas prendre de responsabilité face à cette alliance. Par contre, il va prendre une responsabilité dans cette alliance. Donc Dieu, c'est Dieu qui prend la responsabilité de cette alliance, mais il demande au patriarche d'y entrer par la foi et de le montrer pratiquement. OK ? Donc cette alliance d'Abraham est unilatérale, c'est Dieu qui prend la responsabilité de cette alliance, mais il demande au patriarche d'y entrer par la foi et de le montrer pratiquement. Nous allons donc parler de la conclusion de l'alliance et ensuite du signe de l'alliance. Donc la conclusion, Abraham a reçu des promesses, Dieu lui a donné des moyens pédagogiques pour se souvenir. Comment est-ce que se souvient des promesses de Dieu ? En regardant la poussière quand on marche, ou en regardant le ciel la nuit pour voir les étoiles. Et maintenant il va plus loin en pratiquant un serment, une alliance. Abraham demande à Dieu comment il reconnaîtrait qu'il posséderait le pays, et la réponse ne tarde pas. Yahvé va accomplir un rituel qui se faisait à l'époque pour ratifier une alliance. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué personnellement. J'ai vu une fois un pasteur qui l'a fait comme exemple. C'est un peu bizarre, mais voilà. Bon, il l'avait fait avec des peluches, hein, n'ayez pas peur. Donc, des animaux étaient coupés en deux et on mettait les deux parties face à face, okay, avec un espace entre les deux. Et celui qui concluait l'alliance devait passer entre les deux parties des animaux qui étaient coupés en deux. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans l'imagination, mais vous comprenez l'idée, hein ? Cela signifiait, mais c'est très important, cela signifiait que celui qui passait, s'il ne respectait pas les clauses de l'alliance, il acceptait que son sort soit semblable à celui des animaux coupés en deux. Donc la conclusion d'une alliance n'était pas vraiment de la rigolade. C'était solennel et sérieux. Il est intéressant de noter que dans le cas ici d'Abraham dans Genèse 15, Abraham ne passe pas entre les animaux. C'est seul l'Éternel qui passe en le manifestant par le feu. Regardez avec moi dans Genèse 15, les versets 17 et 18. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham. C'est l'Éternel qui prend la responsabilité de l'alliance. C'est lui qui se porte garant. Dieu ne demande rien à Abraham ici. Il ne dit pas « viens, passe entre les... » Non, il ne demande rien à Abraham. Il le fait gratuitement. Et il en a de même pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ a tout accompli. Si on prend l'image, il est passé entre les animaux. Il ne nous demande pas d'accomplir quelque chose pour pouvoir être pardonné et sauvé. Il a tout accompli. Dieu prend la responsabilité de l'alliance qu'il contracte avec ses élus au travers de son Fils et il en est garant. C'est pour cela que nous n'avons aucune crainte de perdre le salut. Parce que cela ne dépend pas sur nous, mais sur celui qui a conclu cette alliance. Celui qui a reçu une nouvelle nature par l'œuvre du Saint-Esprit est certain de ne jamais être perdu. Une chenille qui est devenue papillon ne redeviendra plus jamais une chenille. Mais une chenille qui joue au papillon reste une chenille. Même si elle va sur une branche, puis tout qu'elle saute pour essayer de voler, bah, ça reste quand même une chenille. Voilà. Et un des éléments essentiels qui manifeste le vol du papillon, c'est la soumission. L'obéissance à Dieu et à toutes les autorités que Dieu a mis en place, c'est un aspect fort du vol du papillon. Parce qu'en fait, un aspect fort de la chenille, c'est qu'elle est rebelle et désobéissante. Ça fait partie de sa nature. Et elle rampe. Alors que le papillon est dans cette soumission à Dieu et dans cette obéissance. L'obéissance par la foi est un aspect important dans la vie d'Abraham aussi. Et tout cela est possible uniquement parce que Dieu en est le garant. Maintenant, est-ce que Abraham reste les bras croisés ? Ok, j'ai vu un feu qui est passé, et puis bon, voilà, passons à autre chose. Est-ce qu'il est impliqué dans la démarche d'alliance de Dieu ? Eh bien, s'il n'est pas impliqué dans la garantie de l'alliance, il est impliqué dans la démonstration de l'appartenance à l'alliance. C'est-à-dire que la garantie, Dieu l'a fait. Il l'a pris dans l'alliance et maintenant Abraham va démontrer qu'il en fait partie. Et c'est ainsi qu'il va lui donner un signe. Okay, on pourrait dire, si on prend le langage du Nouveau Testament, comme Jacques le dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Abraham, le verset 6 du chapitre 15 que je vous ai dit qui est absolument fabuleux, il va le démontrer. Il va accomplir un signe. Et c'est le signe d'alliance que Dieu va établir plus de 13 ans après avoir conclu cette alliance. Donc le signe de l'alliance, Dieu a fait une alliance avec Abraham, qui ensuite a une désorientation que nous avons étudiée la semaine dernière. Il a donné naissance à Ismaël. Et 13 ans après la naissance de ce dernier, alors qu'Abraham est âgé de 99 ans, même un Français qui a dit 99, fabuleux, l'Éternel apparaît à Abraham. Et Abraham, malgré son grand âge, Il est vieux quand même. Désolé, hein, c'est pas négatif en disant vieux. Il est âgé à 99 ans, on est d'accord. Vous savez ce qu'il fait ici? Il tombe la face contre terre. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit qu'Abraham tombe la face contre terre. Il manifeste sa soumission à Dieu. Une position qui exprime une grande déférence, une soumission totale. Et Dieu lui parle à nouveau après 13 ans de silence. 13 ans. Donc il y a eu toute cette histoire avec cette mère porteuse, hein, on en a un petit peu parlé, et Dieu ne lui a plus parlé pendant 13 ans. Ça a dû être difficile. Mais Dieu ne laisse pas tomber Abraham. Il lui parle, il renouvelle sa foi, il lui rappelle son alliance et fait un pas supplémentaire justement ici pour Abraham. Genèse 17, versets 9 à 11. Regarde avec moi, Genèse 17, versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi dans toute leur génération. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. » Dieu instaure un signe qui manifeste l'attachement à son alliance. Pourquoi la circoncision? On peut faire toutes sortes de théories. Dieu a demandé la circoncision, point. Que Abraham comprenne pourquoi c'est la circoncision ou pas, ça ne change rien. C'est le signe que Dieu a donné à Abraham. Et ce n'est pas la circoncision qui fait que quelqu'un est dans l'alliance. Ce n'est pas la circoncision que quelqu'un... qui fait que quelqu'un soit dans l'alliance, mais tous ceux qui font partie de l'alliance se font circoncire pour manifester leur attachement à l'alliance. S'ils ne se circoncisent pas, ils sont rejetés de l'alliance. En fait, s'ils ne pratiquent pas la circoncision, cela montre qu'ils ne gardent pas l'alliance, puisque c'est exactement ce que Dieu dit ici à Abraham. Si tu gardes, tu garderas mon alliance, donc tu feras ça. Donc celui qui ne pratique pas la circoncision montre qu'il ne garde pas l'alliance. Cela signifie qu'ils n'en font pas partie. C'est comme un joueur d'une équipe, foot, hockey, enfin une équipe, hein, qui va dans un match mais qui ne met pas de maillot. Donc en fait, son acte l'exclut de l'équipe. Le signe de la nouvelle alliance que Jésus a instauré comme moyen de montrer notre attachement à l'alliance de grâce est le baptême. Celui qui fait partie de l'alliance de Jésus-Christ, qui connaît le baptême, hein, bon, il y en a qui ne sont pas enseignés, mais qui connaît le baptême, hein, mais qui ne se fait pas baptiser, démontre qu'il n'est pas attaché à l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Puisque c'est un signe qui est simple en plus, que Dieu a demandé. Si quelqu'un dit « je témoigne à Jésus-Christ de mes amis non chrétiens », c'est très bien, mais qu'il ne témoigne pas de Christ par le baptême dans l'Église, indique qu'il ne s'identifie pas avec Christ et sa propre famille spirituelle. C'est un mépris de Christ, de ce que Christ a demandé et qui devrait nous pousser à nous considérer les frères et sœurs en Christ comme avec un amour tellement fort que c'est une joie de manifester ce signe dans ce cadre-là. Le baptême, c'est plus qu'un acte d'obéissance, de soumission, c'est une identification à Christ. C'est plus encore qu'un acte d'obéissance et de soumission, c'est une identification à Christ. Vous connaissez dans Romains où il est dit « mort avec lui, ressuscité avec lui ». Le baptême d'eau manifeste une réalité spirituelle, c'est vrai, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême a lieu lors de la conversion. Le baptême d'eau est une manifestation visible qui atteste la soumission du croyant, comme la circoncision pour Abraham. La petite parenthèse par rapport au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas, comme certains l'enseignent, une puissance reçue après la conversion manifestée par le don des langues, par exemple. Non, la puissance de Dieu est manifestée lors du changement de nature d'une personne. C'est un miracle extraordinaire, un changement de nature. C'est la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne a changé de nature, elle va se convertir. La conversion contient la repentance et la foi, qui sont une manifestation de l'œuvre de l'Esprit en nous et qui est vécue par le chrétien né de nouveau. Et nous vivons la repentance et la foi dans notre vie. Le Saint-Esprit nous implique les bienfaits du Christ. Il est l'instrument duquel Christ nous donne tous ses biens. Et nous savons, selon Colossiens 2:10, que nous avons tout pleinement en Christ et pas dans un quelconque don, tout en Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir les bienfaits de Christ et nous les recevons lors de notre conversion. Donc Paul dit en Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc celui qui n'appartient pas à Dieu ne croit pas au Seigneur Jésus. Celui qui signifie qu'il ne peut pas être, ce qui signifie qu'il ne peut pas être baptisé, car il est écrit qu'il faut croire pour être baptisé. Donc on ne va pas baptiser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. En résumé, pour clore cette parenthèse du baptême du Saint-Esprit, il est donc clair que celui qui se fait baptiser dans l'eau pour manifester sa foi et son attachement à Christ, qui est reconnaissable et visible hein, pour tous, est déjà baptisé du Saint-Esprit. Parenthèse fermée, revenons à Abraham. Dieu a conclu une alliance avec lui et l'a garantie. Dieu a institué un signe qui manifestera l'attachement à cette alliance. Alors, que fait Abraham après avoir entendu cela? Donc, Dieu lui a dit, si tu veux être dans mon alliance, il faut te faire circoncire. Il dit, ok, merci, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. À la prochaine, je t'enverrai un petit WhatsApp. Mais non, il va tout de suite dans sa maison pour se faire circoncire et circoncire tous les hommes de la maison. Tout de suite. Il n'est pas en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut le faire? Non, il le fait tout de suite. Il prend Ismaël, tous ceux qui sont nés dans sa maison, tout le monde, lui-même y compris, se fait circoncire. La soumission d'Abraham, elle est visible. Si quelqu'un sait que Dieu lui a dit ça, il sait qu'Abraham a obéi. C'est visible. Pas de doute. Abraham met tout de suite en pratique ce que Dieu lui a demandé. C'est un exemple. Juste avant et juste après l'établissement du signe de la circoncision, qui agit là comme un trait d'union, Dieu fait encore quelque chose. C'est notre dernier point. Dieu change le nom et concrétise la descendance. On va lire Genèse 17, verset 5. Donc ça, c'est juste avant. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Abraham veut dire père élevé, Abraham veut dire père d'une multitude. Bon, je ne vais pas faire maintenant toute une réflexion sur les différences de ce que c'est de tout cela. Mais au-delà de la signification du nom, il est intéressant de constater qu'une seule lettre est ajoutée au nom d'Abraham en hébreu. Et cette lettre est la lettre qui correspond pour nous au H, qui est mise au centre de son ancien nom. Et ce H, enfin ce qui correspond au H, symbolise en fait le souffle. Le souffle dans l'Écriture symbolise l'Esprit de Dieu. C'est quand même fort cette notion. Donc une seule lettre qui est ajoutée, cette seule lettre c'est le H. Ce H symbolise, enfin je dis H parce qu'on parle français, ce H symbolise le souffle et le souffle dans l'Écriture symbolise l'Esprit de Dieu. En fait, en changeant le nom d'Abraham, Dieu manifeste un changement dans sa vie, comme il l'a fait pour Jacob qui est devenu Israël, ou pour Simon, qui est devenu Pierre. Il y a même Saul qui est devenu Paul, là on ne sait pas comment et quand ça s'est fait. Et maintenant, il est prêt pour la circoncision. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu la dernière fois que sa relation avec Sarah, en tant que... Cela est dit dans Hébreux 11, 11 et 12, je vous le lis. C'est par la foi aussi que Abraham, elle-même, malgré son âge avancé, fut capable de donner le jour à une descendance. Parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ça, c'était Hébreux 11, 11 et 12. C'est une foi renouvelée d'Abraham et de Sarah qu'on voit ici. La foi renouvelée avec ce nouveau nom aussi qu'ils ont reçu, avec cette promesse, avec cette circoncision qu'ils ont vécue, que l'on conclut cette prédication. La foi renouvelée. Or, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui de tout ce qu'on a entendu? La foi est-elle toujours liée à des promesses? Oui, c'est la réponse. Lesquelles connaissez-vous? Connaissez-vous des promesses qui vous permettent, comme Abraham, de vous rappeler de l'œuvre de Dieu? N'hésitez pas à parcourir la parole de Dieu de long en large, comme Abraham l'a fait du pays de Canaan, pour vous approprier les promesses. Et pourquoi pas, en lisant la parole, vous voyez une promesse et vous faites un autel. Enfin, vous priez, ça veut dire ça. Vous êtes allé chercher des pierres, etc. Vous priez pour les saisir, pour les prendre. Entrons dans l'alliance en Christ, ça c'est un deuxième élément, cette notion d'alliance. Et réjouissons-nous de ses promesses. on le voit quand Jésus parle de l'alliance, il fait déjà, en tout cas, deux grandes promesses. Donc, je vous lis le texte, puis vous essayez de trouver les deux promesses. Ça va ? Vous êtes prêts ? Vous êtes encore là ? Ok, on essaye. Hein. Matthieu 26, 27 à 29, il dit « Il prit ensuite une coupe. » Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus, par son alliance, nous donne déjà deux grandes promesses, en tout cas ici dedans. Vous les avez vues ? Alors la première, c'est le pardon des péchés. Une promesse extraordinaire. Et qu'il est bon de nous souvenir, de nous rappeler. Et la deuxième, peut-être vous en trouverez encore d'autres ici dedans, en développant le texte, en le méditant. Mais la deuxième que je souligne, c'est l'assurance que nous serons avec lui dans le royaume de Dieu. Quand il dit que je ne boirai plus jusqu'à, ça veut dire qu'à un moment donné, nous serons avec lui dans son royaume. J'aimerais vous donner encore quelques autres promesses pour nourrir notre foi, hein, pour terminer cette prédication et continuer d'être attentif. Marc a commencé à donner des promesses de Dieu au début du culte, ça fait partie de ce qu'on prend avec nous. Hein. Et là, je vous en donne des classiques qu'on devrait toujours avoir en tête. Si je vous dis 1 Jean 1,9, c'est une promesse extraordinaire. Vous êtes d'accord ? Ouais, je vous l'ai dit quand même. Hein. Si nous confessons nos péchés, hein, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Ou encore 1 Pierre 5,7 aussi, c'est des promesses classiques qu'on connaît souvent. Hein. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On en a tellement besoin. Quand on apprend des nouvelles difficiles, on a besoin d'aller décharger ça. Moi, j'aime beaucoup Ézéchias, hein, je vous ai déjà dit, quand il reçoit une nouvelle, il prend la lettre, il va vers l'Éternel, il dit « Regarde, regarde. » Moi, je ne maîtrise vraiment pas ce qui se passe là. Et il la dépose. Ou encore, bon, Matthieu 28, 20, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le sandwich de Matthieu 28, hein, on a tout pouvoir m'a été donné, puis ensuite la promesse qui va avec, je serai avec vous tous les lundis jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, sans exception. Hein, faut pas couper ce que je viens de dire dans l'audio, hein, sinon on peut faire dire des choses que je ne suis pas d'accord. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore, Jean 14, 3, ça c'est une promesse que j'aime beaucoup. Donc je vous la partage. Moi j'aime partager les belles promesses et celle-là elle est belle. C'est Jésus dit à ses disciples, « Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On va prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir lire ta parole, de pouvoir comprendre que cette parole progressive que tu nous as donnée dans cette histoire de l'humanité, tu nous donnes un homme, Abraham, qui nous aide à comprendre tellement de choses en lien avec la foi. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à saisir l'importance de tes promesses. En fait, c'est tes promesses qui ont fait bouger Abraham. C'est tes promesses qui l'ont gardé proche de toi. C'est tes promesses qui lui ont donné la force de faire face à toutes les situations. Et c'est tes promesses qui lui ont même permis de revenir à toi. Donne-nous, Seigneur, la grâce de chérir tes promesses, de nous les rappeler et de les chercher même dans ta parole comme un parcours qu'on fait dans un pays pour les trouver et nous en réjouir. Oh, j'aimerais te prier, Seigneur, que nous puissions aussi comprendre cette alliance. L'alliance que tu as faite avec Abraham, qui était pour lui aussi un élément, un socle, un fondement qui l'a rassuré. C'est toi qui es passé entre les animaux. Tu lui as montré clairement que c'est toi qui prenais la responsabilité de cette alliance. Eh bien, c'est toi qui as donné ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que chacun ici puisse saisir cette grâce. Et que si quelqu'un se sent son péché, se dit « mais je ne suis pas digne de venir vers Christ », qu'il puisse être saisi par la grâce si grande et plus grande encore que toutes nos angoisses que Jésus-Christ nous donne. Il nous dit « viens à moi, n'aie pas peur ». Et nous voulons, Seigneur, saisir cette grâce aussi et te prier de nous guider, de nous garder proche de toi. Oh, sois loué, sois béni, toi le Tout-Puissant qui tient toujours tes promesses. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'entretien. L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.